Le livre des Actes des Apôtres, dans la continuité de l'évangile de Saint-Luc, raconte les disputes qui ont éclaté dans la première église, celle des commencements. Des disputes, dit le texte, entre les frères de langue, mais plus largement de langue, de culture, de tradition grecque, et ceux de langue, culture et tradition hébraïque. Parce que, dit le texte, quel était le motif de ces disputes ? Les veuves du premier groupe étaient, je cite, « désavantagées dans le service quotidien ». Que se passait-il exactement ? On ne peut pas savoir, on peut interpréter. Sans doute étaient-elles plus isolées que les veuves du deuxième groupe. Mais c'est à ce moment-là, très exactement, que le diaconat a été créé, que les diacres ont été institués pour servir aux tables, dit le texte. Comprenez, pour veiller à une juste répartition des ressources, pour éviter les conflits, pour gérer les susceptibilités et les jalousies, et surtout pour permettre aux apôtres de rester, la phrase est importante, de rester assidus à la prière et au service de la parole. Autrement dit, leur permettre de passer plus de temps à l'enseignement qu'au gouvernement de la communauté. Dit en termes modernes, passer plus de temps à la mission, à la proclamation de la bonne nouvelle, mais aussi à l'étude, la réflexion, qu'en réunion interne. Ce sont deux missions très différentes, évidemment complémentaires, que l'enseignement et le gouvernement. Puisque l'enseignement, le propre de l'éducation, c'est de permettre à chaque personne de s'épanouir, de développer ses talents, d'accéder à la liberté. C'est ça la finalité de l'enseignement. Permettre à chacun d'accéder à la liberté. Tandis que le gouvernement n'a pas pour rôle de restreindre cette liberté, mais de fixer les limites de la liberté de chacun, d'abord pour sa sécurité et pour le bien de tous. Et puis il y a entre les deux, entre l'enseignement et le gouvernement, une troisième mission des apôtres, et donc par conséquent de leurs successeurs les évêques et donc de leurs collaborateurs les prêtres et les diacres. Cette troisième mission qui fait le lien entre l'enseignement et le gouvernement, la tradition l'appelle la sanctification. C'est une doctrine très classique, très ancienne, qu'on appelle la doctrine des trois munera du latin, qui veut dire les trois missions. Enseigner, sanctifier, gouverner. Et cette mission de sanctification, elle fait le lien entre les deux, parce que la sainteté se définit très exactement par un usage exemplaire de notre liberté. Qu'est-ce que c'est un saint, une personne sainte, un saint ou une sainte ? C'est d'abord à l'image du Christ, quelqu'un de libre. La liberté du Christ, la liberté des enfants de Dieu. Mais pas libre pour faire n'importe quoi, libre pour faire le bien. Libre pour effectivement progresser, avancer, et pas tout seul, ensemble. Il y a une phrase de saint Paul qui est merveilleuse qui dit « Rien n'est interdit ». Tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Voilà comme une devise du chrétien. Tout est permis, mais tout n'est pas profitable, ni à soi, ni pour les autres. Notre sanctification, devenir des saints, notre sanctification est celle de notre liberté. C'est ce que dit saint Paul dans la lettre aux Galates. Vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le critère de lecture, d'écoute et, nous disons, de service de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une parole d'amour qui nous est donné pour que nous nous aimions les uns les autres comme le Christ nous a aimés. C'est-à-dire, s'il le faut, jusqu'à la mort. Trois traits caractérisent la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est personnelle, elle est efficace, agissante dans notre vie. D'abord, elle est vivante. La Bible n'est pas un recueil de textes d'œuvres d'écrivains qui seraient morts il y a des siècles et des siècles, ou plutôt, pour revenir dans le contexte de l'époque, d'orateurs dont les paroles auraient été recueillies et transmises de génération en génération avec les approximations que l'on peut deviner. Non, l'auteur de la Bible, c'est l'Esprit Saint. Voilà pourquoi la Bible est la parole de Dieu. L'auteur de la Bible, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré ces textes que les successeurs des apôtres, que l'Église a, sous l'action du même Esprit, reconnu comme parole de Dieu elle-même et que nous accueillons nous également comme tels en acceptant, en étant conscients de leur formulation humaine et imparfaite. Et s'applique à ces textes ce que saint Augustin disait à propos de Jean-Baptiste. Il disait de Jean-Baptiste qu'il était la voix, mais que c'était le Seigneur, le Christ, la parole. Jean-Baptiste la voix, le Christ la parole. La parole de Dieu, elle est vivante, parce que le Christ est vivant, il est ressuscité. Et sa parole est personnelle. Elle nous est adressée à chacun personnellement. Elle transcende les siècles pour offrir à toute personne, quelle que soit sa langue, sa culture, sa tradition, la possibilité d'entrer dans un cœur à cœur avec le Seigneur. La parole de Dieu est vivante, elle est personnelle, elle est efficace, elle est agissante. C'est ce que dit la lettre aux Hébreux. Énergique, plus coupante qu'une épée à deux tranchants, elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire qu'elle va dans notre cœur pour justement nous convertir, nous aider à trouver effectivement notre chemin, nous guider dans l'usage de notre liberté. Saint Antoine, que nous avons fêté le 17 janvier, il y a moins de 10 jours, pas Saint Antoine de Padoue, qui a vécu au XIIIe siècle, Saint Antoine du désert, ou Saint Antoine l'ermite, le premier, qui est milieu du IVe siècle, s'était retrouvé orphelin et héritier à 20 ans. Une certaine fortune, ses parents étaient morts, il avait juste une sœur. Il était entré dans une église. Il était entré dans une église au moment où on proclamait l'Évangile. Et il entend « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux. » Frappé au cœur, il a eu l'impression que c'était pour lui. C'est à moi. C'est l'Évangile, c'est à moi que cette parole est adressée. Il a commencé à vendre une grande partie de ses biens. Mais la chose s'est répétée une autre fois. Il entend, mais pas seulement il l'entend, il est saisi par cette parole. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain s'inquiétera de lui-même. Alors là, résolument, il confie sa sœur à d'autres personnes. Il lui assure effectivement une des possibilités de vivre. Et il commence une vie ascétique d'ermite du désert, travaillant de ses mains parce qu'il avait aussi entendu cette parole « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » On peut le répéter aujourd'hui. Et il priait sans cesse parce qu'il avait appris, même chose, qu'il faut prier sans relâche. Et saint Athanase, qui a écrit une très jolie petite vie, c'est vraiment un petit livre de la vie de saint Antoine, raconte que tous les habitants du village, en le voyant ainsi, vivre ainsi, l'appelait l'ami de Dieu. C'est beau, l'ami de Dieu. Les uns l'aimaient comme leur fils, les autres comme leur frère. Le point crucial de notre liberté réside dans notre dépendance au regard des autres. Nous le savons tous, nous sommes tous vulnérables à cet égard, plus ou moins. Le souci, l'inquiétude, l'angoisse du regard d'autrui. Et il faut vraiment du courage, il faut une grâce de Dieu pour ne pas chercher d'autre approbation que celle du Seigneur. Et voyez, dans l'évangile de ce dimanche, tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui, sur Jésus. C'est une anticipation et une promesse de ce que nous vivrons dans le royaume. Nous serons avec le Christ, pour le Christ, tournés vers le Christ, sans chercher à nous épier, à nous regarder, à nous comparer les uns les autres. Et c'est pourquoi, comme anticipation du royaume, le Christ peut dire « Aujourd'hui, l'Écriture s'accomplit ». Alors nous n'entendrons pas dimanche prochain la suite, parce que ça sera le 2 février et nous fêterons la présentation du Seigneur, mais la suite, elle est rude. Se lève tout de suite la première contestation, l'opposition à Jésus, qui se conclura par la même liberté du Seigneur. Ils veulent le précipiter dans haut d'un escarpement. Lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. De tous les livres de la Bible, et en particulier pour nous du Nouveau Testament, l'Évangile tient une place sans égale. Sans égale. C'est notre lecture, c'est notre pain quotidien. Parce que c'est la parole du Seigneur et parce qu'elle est totalement centrée sur le Christ. C'est lui la parole du Père, le Verbe incarné. Parole de vérité, chemin de liberté.